La vie en bleu avec Puel, agréé RGE. Le spécialiste en installation et maintenance de votre climatisation et ventilation. Plus d'informations sur puel.fr.
Dans la vie en bleu, le mag, l'architecture de l'avenir avec Mathieu Guillaumard, maître d'œuvre, l'habitat écologique dans le rythme de la nature. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Vous vous passionnez pour les Earthships et vous êtes à Champ-Romain en Dordogne. C'est quoi les Earthships en quelques mots, parce qu'on va très largement l'expliquer dans le magazine?
Alors le Earthship, c'est avant tout une invention d'un architecte qui a lancé ça dans les années 70 et qui a trait à plein de choses autour de l'architecture. C'est le bioclimatisme, c'est une pensée autour des matériaux, de l'utilisation de l'eau, des énergies, le traitement des eaux usées, le traitement de nos déchets, etc.
Donc une maison autonome, on va en parler dans le détail avec vous ce matin. Important aussi cette opération de recrutement dans le service à la personne avec Gaël Guyader. Il répond à Dominique Bourdeau dans cette vie en bleu. Et cet été, pas de frelons asiatiques en nombre, c'est votre objectif, j'en suis persuadée. Alors Benoît Cotin va vous aider à lutter contre cet insecte mal aimé. Comment mettre en place des pièges? Est-ce que c'est possible? Rodolphe Martinez va poser vos questions à Benoît Cotin. Dans le Grand Miam, les tartes de saison avec le pâtissier Cyril Saint-Nicolas et toujours Rodolphe qui fera un gros plan sur le lancement de Django, un nouveau lieu hybride à la fois restaurant, cave à vin et club de jazz à Bordeaux. Je vous souhaite une excellente matinée.
9h-11h, la vie en bleu sur France Bleu Gironde.
So wonderful.
Wonderful Life, c'était Black sur France Bleu Gironde.
La vie en bleu, le mag, Isabelle Wagner.
Dans la vie en bleu, le mag, on parle de votre bien-être. Le bien-être, ça passe aussi par l'habitation. Dans la vie en bleu aujourd'hui, l'architecture de l'avenir, avec Mathieu Guillaumard, maître d'œuvre. Alors à quoi ressemble l'architecture de demain, Mathieu? Les formes des maisons, les immeubles, tout ça va se modifier. À quoi ça va ressembler?
Ouais, alors tout d'abord, bah, c'est vrai qu'on va devoir peut-être adapter la forme pour revenir au bioclimatisme, c'est-à-dire que les maisons seront peut-être les immeubles plus orientés par rapport au soleil et pas par rapport à la positionnement de la route, par exemple, pour profiter des apports solaires, pour profiter de cette énergie qui est gratuite avant tout, quoi. C'est aussi des surfaces du coup beaucoup plus vitrées sur les parties sud, pas loin de 70% de surfaces vitrées pour profiter des apports solaires. Voilà. Après, faut stocker cette énergie. Donc bon, là, effectivement, il y a deux écoles, quoi. Si on est sur de l'architecture horizontale, on peut aller peut-être un petit peu enterrer les maisons pour profiter de la géothermie passive. Sur les immeubles, c'est plus compliqué.
Alors, de nouvelles ressources aussi en ce qui concerne les matériaux, puisque il y aura plus de matériaux non renouvelables. Les énergies fossiles sont en train de disparaître. Comment on va pallier à tout ça?
Bah effectivement, on parle souvent du pétrole, mais c'est pas la seule ressource non renouvelable. Tous les minerais, les matériaux, etc., les métaux, tout ça, c'est des ressources non renouvelables. Donc, les matériaux de demain, c'est réutiliser des matériaux qui ont déjà été transformés, qui aujourd'hui sont considérés comme des déchets, par exemple. Dans les earth chips, notamment, on utilise des pneus de voiture. En France, on sait très bien faire. Depuis les années 80, dans les travaux publics, on fait des murs de plusieurs dizaines de mètres de hauteur avec des pneus, donc on sait le faire. Ça passe aussi par les matériaux renouvelables, comme la paille, le bois, donc il va falloir utiliser de plus en plus.
Parce qu'il n'y aura plus de sable pour le ciment, vous dites, dans pas très longtemps finalement.
Oui, bien sûr, toutes les études, les études qui s'intéressent à ça le montrent. Le sable se fait de plus en plus rare parce que le béton est le premier matériau de construction dans le monde. Donc, il utilise beaucoup de ciment, beaucoup de sable, beaucoup de gravats et tout ça. Voilà, tout ça, c'est du sable à la base, c'est de la roche. Donc, ça se fait de plus en plus rare.
Oui. ça c'est quand même un gros bout de notre architecture, de nos habitations, plus de ciment. Donc vous dites du bois, de la paille, de la boue aussi. Alors la boue, c'est déjà utilisé par exemple en Afrique, hein, depuis très longtemps. D'ailleurs, on revient un petit peu à ces choses qu'on a oubliées. Voilà, en construisant vite et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'immeubles, par exemple en milieu urbain.
Oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est venu après la Seconde Guerre mondiale. En fait, il a fallu reconstruire la France, il a fallu reconstruire le pays vite. Donc on est allé sur des process industriels. Il a fallu faire vite. Donc on a un peu oublié les techniques ancestrales, le bois, effectivement, utiliser la terre, le piser, etc. Qui pourtant sont des techniques qui allaient vite aussi. On peut les semi-industrialiser. On aurait pu faire des choses effectivement comme ça et il va falloir y revenir, je pense.
Dans la vie en bleu, le mag, l'architecture de l'avenir avec Mathieu Guillaumard qui est maître d'œuvre et qui est venu de Dordogne ce matin pour vous parler de cette nouvelle façon de voir l'architecture. Hein. Donc aujourd'hui, des bâtiments sont construits pour résister aussi, Mathieu, au feu, aux tempêtes. Alors vous parlez de bois, est-ce que c'est vraiment résistant à ces intempéries? Est-ce qu'on peut aussi résister aux secousses sismiques? Parce qu'il faut pas l'oublier.
Oui, bien sûr. Alors, ça, c'est vrai, on en avait parlé, l'idée des maisons des trois petits cochons avec la maison en paille, la maison en bois qui résiste pas. En fait, c'est vraiment faux. Tout ça, c'est dans l'inconscient collectif. Le bois, c'est ce qui résiste le mieux au feu en termes de structure. Parce qu'une structure, par exemple, en acier, dès qu'elle est chauffée, effectivement, elle va résister au début, elle va pas bouger, puis dès qu'elle a atteint son point d'élasticité, ça va s'effondrer en 10 secondes. Hein, on l'a déjà vu sur des bâtiments. Au contraire, le bois, lui, il se fait une petite carapace de carbone sur sa surface, et à l'intérieur, il va rester super résistant. Voilà, donc il y a absolument pas de souci par rapport à ça. D'ailleurs, je rappelle, hein, pour ceux qui auraient des peurs par rapport à ça, que la construction bois, la construction paille, aujourd'hui, elles sont normées. Ça, c'est des processus qui ont été longs, etc., surtout pour la paille. Mais elles résistent très bien au feu, voire plus que certains matériaux industriels aujourd'hui.
Donc bon. Ça, c'est pour le feu. Il y a le vent aussi.
Oui, il y a le vent. Et puis
De plus en plus de tempêtes.
Il y a le vent, voilà. Il y a aussi, effectivement, les secousses sismiques. Voilà, tout ça, il y a des essais qui sont faits. Par exemple, la construction traditionnelle au Japon, qui est quand même un des pays où la sismologie est assez importante. La construction traditionnelle, c'est le bois, et ça résiste très bien, voire mieux que des matériaux qui sont très très rigides comme le béton armé. Parce que le bois, il peut bouger dans les assemblages, ça bouge. Voilà, donc il n'y a aucun souci par rapport... C'est souple, ouais, tout à fait, c'est souple. Comme l'argile, par exemple, l'argile et la chaux qui sont beaucoup plus souples que le béton, parce qu'il y a une notion de respiration. En fait, quand il fait chaud, ça se dilate. Donc ça suit un peu le rythme de la nature, finalement, le soleil, etc. Le béton, c'est pas faire ça. Le béton, dès qu'il y a une petite secousse ou un petit stress lié à la dilatation, ça craque. Voilà. Donc non, il n'y a pas de souci par rapport à ces problèmes de contreventement, de feu, etc. Ouais.
Il y a des exemples existants à observer de très très près. Par exemple, tout ce que vous venez de dire en Allemagne déjà.
Ouais, tout à fait. Bah, la construction bois, notamment, où on sait faire, effectivement, on sait faire des immeubles de plusieurs étages. On est sur des 5, 6, 7 étages. Et par exemple, au Yémen, dans la ville de Shibam,
oui.
C'est une ville qui est classée patrimoine par l'UNESCO. Pareil, c'est des immeubles de plusieurs étages, uniquement en terre, en argile. Donc, voilà, on sait faire, quoi. Il y a pas de souci.
On sait faire. Il faut y aller. Alors aussi, dans notre pays, en France, qu'est-ce qui peut retenir encore un petit peu cette envie d'utiliser les nouveaux matériaux les matériaux de la terre, hein, et puis de recycler les ordures pour en faire de l'or.
Ouais, moi je pense qu'il y a plusieurs choses, hein, qui retiennent ça. Avant tout, je pense que c'est il y a plusieurs choses, mais bon, déjà, il y a une pression industrielle, hein, on va pas se mentir, hein, les matériaux, aujourd'hui, le ciment, il y a une pression industrielle derrière qui pousse à consommer là-dessus, mais on y vient quand même. Après, voilà, il faut pour le faire à grande échelle, il faut que ça respecte des normes, donc il y a tout un processus de normatisation qui est long, qui est très long. Pour la paille, par exemple, ça a pris quasiment 10 ans, et aujourd'hui seulement, voilà, les architectes commencent à pouvoir faire des bâtiments en paille, des collèges en paille, vraiment des bâtiments imposants.
Bon, on revient dans un instant dans cette vie en bleu, le MAC. Je vous ai dit que ce serait passionnant, l'architecture de demain, avec Mathieu Guillaumard, maître d'œuvre. On va aussi parler de toute cette manière de construire, en fait, hein. L'architecture, c'est, voilà, il faut la penser, cette maison, il faut la dessiner, il faut aussi la réaliser. Alors, comment sont réalisés ces immeubles, à quoi ça va ressembler aussi? On en parle dans un instant dans la vie en bleu, le MAC.
France Bleu. Pierre et nature. Marie-Corinne Caïto.
Cette semaine, Pierre et Nature vous emmènent découvrir Verdelais, sa basilique, son moulin, son chemin de croix et son calvaire, sans oublier les illustres personnages comme Toulouse-Lautrec et Mauriac qui ont marqué à tout jamais l'histoire de cette commune girondine.
Pierre et Nature, aujourd'hui, 12h25, en réécoute et en podcast sur francebleu.fr/gironde. France Bleu, partenaire de la chanson de l'année sur TF1. Ce vendredi 8 juin, vous avez rendez-vous pour une soirée exceptionnelle, présentée par Nikos Aliagas depuis les arènes de Nîmes. Big Flo et Oli, Kenji Girac, L'Artiste, Slimane, Vianney et Maître Gims. Dadju, Vita et Claudio Capeo, Marwa Loud, Louane ou Eddie Depreto. Qui succédera à Amir avec On Dirait? Ce vendredi 8 juin, c'est vous qui votez pour la chanson de l'année en direct à 21h sur TF1 et en simultané sur France Bleu.
toutes les infos sur francebleu.fr.
Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Sylvain Mougenot, à Chambéry, nous dit pourquoi.
J'ai une bonne écoute, déjà, au départ. J'aime bien des lunettes discrètes, donc on va forcément aller chercher des montures qui correspondent à ce type-là. Et après, ils vont peut-être oser aussi des choses. Tiens, c'est peut-être discret, mais regardez, là, c'est peut-être un peu plus marqué. Et après, en regardant, on dit oui, effectivement, ça fonctionne, quoi. En fait, on me guide dans mes besoins. Et tout ce qu'on me propose me va. C'est vraiment du conseil, et le conseil est toujours à propos. En plus, mon opticien m'a parlé de l'objectif zéro dépense, et c'était franchement une bonne surprise, quoi.
Thierry Husseil, l'opticien Optique 2000 de Monsieur Mougenot, à Chambéry.
Pour nous, le plus important, c'est d'accompagner nos clients dans le choix des montures, mais aussi et surtout dans le choix des verres, en leur proposant les dernières technologies, tout en respectant leur budget. Et comme Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, on gère tout pour nos clients.
Alors, Monsieur Mougenot, content d'Optique 2000?
Complètement. Et en plus, je ne me suis occupé de rien.
Optique 2000, c'est le leader français de l'optique, avec 1200 magasins près de chez vous.
Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien.
Dernier volet du cycle de conférences France Inter, Bien vivre ensemble, animé par Ali Rebeilly et Christophe André.
Nous vous donnons rendez-vous ce soir à 20h pour apprendre à ralentir, à vraiment se déconnecter et moins stresser avant l'été.
2 heures d'échanges, de débats et de séances de méditation en pleine conscience.
La conférence Ralentir, en direct dans les salles de cinéma partout en France. Découvrez la liste des cinémas partenaires sur franceinter.fr et réservez dès maintenant vos places pour vivre cette expérience collective. France Inter, une radio de Radio France.
En partenariat avec la Massif.
Massif, essentiel pour moi.
France Bleu Gironde. France Bleu.
Chacun parle sa propre langue. Très souvent, elle tangue entre le yin et le yang. Tu me retiens, tu me mets des sangles. Quand tu vas trop loin, il arrive que je m'étrangle. Les mots de ma pensée m'ont parfois dépassé. Pour une fois, viens, on efface. Oublions nos beautés, on s'est mis de côté. Je veux qu'on se regarde bien en face. Je ne squatterai plus les rues de ma peine. Quand je suis perdu, je veux que tu me ramènes. Je veux qu'on aille bien, je veux qu'on aille loin. Je ne squatterai plus les rues de ma peine. L'amour ça tue, sauf quand tu te démènes. Je veux qu'on fasse bien, je veux qu'on s'aille loin et qu'on traîne. Le ton monte, on descend la pente. Parfois je me plante entre l'ami et la menthe. Les démons chantent et nous démentent. Pour te préserver, est-ce qu'il faut que je te mente? Suspendu sans arrêt au fil de nos marées, une vague à l'âme qui nous dépasse. Collé à nos égos, posés comme des Legos, je veux qu'on se laisse un peu d'espace. Je ne squatterai plus les rues de ma peine. Quand je suis perdu, je veux que tu me ramènes. Je veux qu'on Je veux qu'on aille loin et qu'on traîne. Je ne squatterai plus les rues de ma peine. L'amour ça tue, sauf quand tu te démènes. Je veux qu'on fasse bien, je veux qu'on s'aille loin et qu'on traîne.
les rues de ma peine sur France Bleu Gironde.
La vie en bleu, le mag, Isabelle Wagner.
Et dans La Vie en Bleu, le mag, nous sommes dans la joie de découvrir à quoi va ressembler l'architecture de demain. C'est le sujet avec Mathieu Guillaumard qui est maître d'œuvre. Alors, on a beaucoup parlé des matériaux. Physiquement, les constructions vont ressembler à quoi, Mathieu? On va commencer par la construction en milieu rural peut-être, parce qu'il y a aussi la zone urbaine, on y viendra un petit peu plus tard. Commençons par cette maison, physiquement, va ressembler à quoi?
Ouais. Alors effectivement, en milieu rural, du coup, on peut se permettre de construire à l'horizontale. Donc on va essayer de profiter en fait, parce que la maison de demain, c'est aussi en termes d'énergie, il faut être efficient. Donc la première économie, c'est l'énergie qu'on dépense pas. Mmh. Donc l'énergie qu'on dépense pas, c'est profiter en fait des lois de la nature, comme la géothermie par exemple. La géothermie nous permet d'avoir une maison où il fait bon, enfin il fait bon. Ça nous permet d'avoir déjà une dizaine de degrés dans la maison sans rien faire. Mmh. Donc déjà, il faut en profiter de ça. C'est de l'énergie qu'on dépense pas. Ensuite, on va profiter de ce qui est gratuit. Donc on va profiter du soleil, les apports solaires, on va le transformer effectivement, on va le transformer en électricité, on va le transformer en eau chaude.
La pluie aussi ?
La pluie aussi, ouais, tout à fait, ouais. La pluie, on va la capter et on va la stocker, voilà. Et effectivement, on va la traiter sur place, parce que le traitement de l'eau pour la rendre potable, c'est vraiment pas grand chose. Donc on va profiter de cette eau gratuite, effectivement.
Alors j'ai regardé une vidéo hein, sur internet selon vos conseils, Mathieu Guillaumard, parce que il faut comprendre que cette maison dont nous parlons actuellement, elle existe déjà, hein, pas très très loin en Dordogne. Il y a une maison à aller voir de près. Ça s'appelle une Earthship inspirée. Le concept vient des États-Unis et c'est déjà installé dans plusieurs pays. Donc c'est comme ça que vous l'avez découvert vous sur internet.
Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ce que je disais. Enfin, à un moment où je cherchais à me reconvertir professionnellement, être un peu plus proche de mon éthique et de mes valeurs, j'ai découvert l'Earthship. Ouais, donc via un monsieur qui m'inspire énormément, qui s'appelle Francis Gendron, qui avait fait des vidéos de présentation effectivement sur cette maison formidable.
Et voilà, écoute quoi, se dire que bah, finalement on pouvait vivre avec une maison construite des matériaux à recycler aussi, parce que dans cette vidéo on dit justement que certaines ordures vont se transformer en or. Pourquoi? Parce qu'on va faire des économies, par exemple les pneus, mais il y a aussi les bouteilles en verre, il y a d'autres choses qu'on peut recycler pour construire.
Ouais, tout à fait. Ouais, des matériaux qui sont déjà transformés, voilà, et qui permettent d'économiser. Bah, par rapport à l'achat de nouveaux matériaux, quoi, tout simplement.
Mmh. Alors, faut ouvrir sur le sud aussi, vous dites, hein.
Oui, voilà. Alors, ces maisons, effectivement, voilà, elles vont être orientées sur le sud pour profiter des apports solaires. Éventuellement, elles vont être un petit peu semi-enterrées, voilà. Donc, avec une végétalisation autour de la maison. Mmh. Ça va ressembler un petit peu aux maisons troglodytes qu'on connaît, qu'on a un peu par ici, mais voilà, en peut-être avec les technologies, les modes opératoires, les méthodes qu'on a aujourd'hui pour éviter tout ce qui est infiltration d'eau, humidité dans la maison, etc.
D'accord. Dans La Vie en Bleu, le mag, l'architecture de l'avenir avec Mathieu Guillaumard, maître d'œuvre. Alors très rapidement, Mathieu, maître d'œuvre, c'est celui qui réalise hein, la maison, les travaux. Hein.
Oui, tout à fait. Le maître d'œuvre, c'est la personne à qui on confie en fait la construction, quoi.
Mmh, voilà. L'architecte, lui, il va dessiner la maison et en fait, ce sont deux métiers qui s'associent et qui se comprennent sur les habitations, bien sûr, sur
ouais,
la naissance des habitations.
Tout à fait. C'est vrai que historiquement, l'architecte et le maître d'œuvre ont des rôles séparés. Sur les projets conséquents, sur les grandes constructions, là on sépare un petit peu ces métiers là sur la maison individuelle, sur des projets un petit peu plus petits, c'est des métiers qui se confondent.
Alors aujourd'hui on dit aussi que si on est motivé, si on a envie de construire sa maison soi-même, on peut y arriver, selon vos conseils bien sûr, et bien suivre la démarche de A à Z, hein. Ça met du temps par contre.
Ouais, tout à fait, ouais, l'autoconstruction, Excusez-moi. L'autoconstruction revient un petit peu à la mode parce qu'on se rend compte que, ben, en fait, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Mmh. Si on a les bonnes informations, et aujourd'hui avec Internet, on les a de plus en plus, et ben, c'est pas si compliqué que ça de mettre la main à la pâte et finalement d'y aller, de construire sa maison soi-même. Moi, c'est un créneau sur lequel je suis pas mal. L'autoconstruction, l'accompagnement, ça permet, en fait, bah, ça permet de faire des économies assez importantes parce que sur un projet, les matériaux, ça représente 40% du prix. La main d'œuvre, c'est 60%. Donc, quand on enlève la main d'œuvre, on fait des belles économies.
En zone urbaine, donc même évolution hein, sur les matériaux, mais on peut pas imaginer quand même des immeubles horizontaux. On perdrait beaucoup de place dans les villes. Ce serait totalement contraire et à l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui.
Ouais, tout à fait, ce serait à l'inverse, mais est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui, ça marche vraiment? C'est une question qu'on peut se poser. Encore une fois, c'était un choix politique de construire à la verticale. Mmh. Maintenant, est-ce que ça marche d'entasser les gens les uns au-dessus des autres?
Oui, c'est quelque chose peut-être qu'on va regretter d'ici quelques années.
Moi, je pense. Moi, je suis fervent et je suis défenseur, effectivement, d'installer les gens à l'horizontale, avec de la place, ouais, avec des espaces verts pour chacun. Et en fait, ça nous permet de pouvoir profiter, de ces lois naturelles et de faire des économies d'énergie. Après, on peut réinventer tout à fait la ville et construire avec une certaine densité, parce que c'est ce que les politiques nous disent, il faut une certaine densité urbaine, etc. Mmh. Moi, je le comprends, ça, mais c'est possible, sauf qu'il faut réinventer.
Mmh. Alors, on a bien compris le principe de Earthship, donc de manière à ce que vous puissiez vous éveiller un petit peu plus. Je vais vous laisser bien sûr les liens sur Internet, sur la page francebleu.com et de la vie en bleu. Juste pour finir à ce sujet, Mathieu, j'aimerais juste qu'on dise que l'eau, finalement, qu'on va récupérer cette pluie, on va l'utiliser 4 fois dans une Earthship, 4 fois pour des tas de raisons, même pour la consommer, hein.
Ouais, tout à fait. Ouais. Moi, c'est un des sujets qui m'a passionné quand j'ai découvert le Earthship. L'eau, on la récupère du toit, donc elle est gratuite. Ensuite, on va la traiter et on va en faire un premier usage, soit pour laver quelque chose, soit pour la boire. Donc, vous l'utilisez dans votre salle de bain, dans votre cuisine. Cette eau-là, dans les constructions d'aujourd'hui, elle part à l'assainissement, ça c'est une aberration. Dans un Earthship, cette eau-là, elle part dans une phytoépuration à l'intérieur de la maison où on va en profiter pour faire de la production de nourriture. Mmh. Et étant donné qu'on a une serre qui est exposée plein sud, on va faire une belle production de nourriture et ça va participer aussi à notre autonomie alimentaire. Cette eau-là, donc on a eu une deuxième utilisation, on va ensuite la prendre et l'envoyer dans les toilettes. Donc c'est pas de l'eau potable qu'on utilise dans les toilettes. Mmh. Ça c'est vraiment vraiment une aberration aujourd'hui de faire nos besoins dans de l'eau potable. Je ne comprends pas.
Nous non plus.
Et ensuite cette eau-là, à la sortie des toilettes, effectivement, elle repart à l'extérieur dans un assainissement. Et à la sortie de l'assainissement, on peut de nouveau l'utiliser pour faire pousser des arbres, faire pousser son jardin, etc.
Superbe. Exemple de cette Earthship, il y en a plein des exemples. On n'a pas assez de temps pour tout dire. En tous les cas, si vous voulez voir le type de maison Earthship inspirée de vos propres yeux, vous pouvez pousser jusqu'au département du Lot ou de la Dordogne, à Biras. Cette maison est signée par l'architecte américain Michael Reynolds. C'est votre modèle, Mathieu, hein, Michael Reynolds. Hein. C'est votre modèle.
Michael Reynolds, c'est un architecte qui m'inspire énormément. Oui.
Ouais. Les liens pour découvrir aussi le travail de Mathieu Guillaumard sur la page de la vie en bleu sur francebleu.fr à la date du jour. Construire durablement, préserver la planète, notre premier habitat, c'est aussi pour cette raison que le GRECO existe. Groupe Recherche Environnement, Confort et Conception Architecturale et Urbaine. Il appartient à l'École Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Bordeaux. Je vous ai aussi laissé le lien sur la page de La Vie en Bleu. Demain dans La Vie en Bleu, le Magon change totalement de sujet. La robe de mariée est dans la lumière des futurs jeunes mariés, de ceux qui ont gardé un cœur romantique. Stéphanie Gervais et Vanessa Raptopoulos travaillent dans la création de robes de mariée à Bordeaux. Et avec elle, la tradition est face au nouveau code de cérémonie. Ce sera demain.
La vie en bleu avec Puel, agréé RGE. Le spécialiste en installation et maintenance de votre climatisation et ventilation. Plus d'informations sur puel.fr.
La vie en bleu, le mag, abonnez-vous au podcast sur francebleu.fr.